Bonjour, nous nous retrouvons sur Radio Grenouille, comme le deuxième samedi de chaque mois, de 11h à midi, pour l'émission Le Petit Alter Radio, une émission proposée par Attaque Marseille. Attaque est un mouvement d'éducation populaire tourné vers l'action, qui cherche à analyser les problèmes de notre monde et de proposer d'autres formes d'évolution. Je suis Christian et je passe la parole à Benoît qui va nous présenter notre émission sur les retraites.
Bonjour Christian, bonjour à tous. En effet, pour cette émission d'avril 2010, le sujet sera retraite et justice sociale. Alors le gouvernement nous promet pour l'été à venir une grande consultation nationale, de manière à présenter à l'automne un projet de loi visant à réformer le système de retraite. Les retraites. Un débat récurrent qui s'appuie sur des constats multiples et qu'il semble difficile de faire concorder. Baisse de la démographie, augmentation du chômage, allongement du temps de cotisation, difficile de s'y retrouver. Globalement, nous savons tous que deux conceptions s'affrontent. Retraite par répartition ou bien retraite par capitalisation. Mais cette opposition de système est une opposition entre deux conceptions de la société. C'est cet arrière-plan idéologique du débat que nous tenterons de mettre en lumière lors de cette émission. Alors dans un premier temps, nous ferons un point sur la situation actuelle de la question des retraites avec Christian Garnier de Attaque Marseille. Dans un deuxième temps de l'émission, nous décortiquerons les arguments avancés en faveur d'une réforme que nous pourrions qualifier de libérale. Pour cela, nous aurons au téléphone Michel Husson, économiste et membre du conseil scientifique d'Attaque. Enfin, dans un troisième temps, nous aborderons les alternatives proposées par Attaque avec Jean-Marie Haribé, professeur d'économie, membre du conseil scientifique d'Attaque, lui aussi. Alors nous abordons tout de suite par ce point sur la situation avec Christian Garnier. Bonjour.
Bonjour.
Christian, là, déjà pour fixer les idées en ce début d'émission, quel volume représentent les retraites dans l'économie française en général ?
Eh bien, aujourd'hui, en 2010, on relève à peu près 12,5 millions de retraités du privé, disons, et il y a à peu près 1,5 million de retraités, de fonctionnaires retraités. Voilà. Ça, c'est en 2010. En 2040, il y en aura 21 ou 22 millions. Voilà, donc c'est un petit peu la problématique à laquelle on est confronté.
Oui, et je sais qu'en 2010, il y a un chiffre du poids des retraites dans le PIB.
Tout à fait. Alors, les retraites versées, ça représente un petit peu moins de 250 milliards d'euros, soit 13% du PIB.
C'est un chiffre non négligeable. Je comprends que cette question soulève des passions et que ça amène un débat, donc 250 milliards d'euros.
Tout à fait. Alors là, tu as rapidement parlé de la répartition. Il faudrait rapidement expliquer. En France, donc, le financement des retraites repose essentiellement sur un système que l'on dit par répartition. Alors c'est quoi la répartition ? Eh bien, c'est un système qui est assis sur les cotisations salariales des actifs qui sont versés dans des caisses comme la Sécurité sociale ou d'autres caisses pour les régimes des régimes spéciaux et qui sont immédiatement versés aux retraités. Donc on le voit, c'est un financement qu'on peut appeler par flux. C'est immédiat, il n'y a pas d'intermédiaire et les cotisations payent les retraités. Donc c'est finalement du salaire socialisé qui sert à financer en répartition les retraites. Les fonctionnaires, eux, sont directement payés par l'État. Il n'y a pas de caisse de retraite pour les fonctionnaires et les pensions sont imputées au grand livre de la dette publique. Voilà, voilà pour ce système en répartition.
C'est-à-dire qu'il y a quand même deux systèmes qui cohabitent, enfin... Une répartition pour tout le monde, mais des caisses pour le secteur privé. Et une inscription au grand livre de la
pour
dette.
Pour les fonctionnaires.
Pour les fonctionnaires.
Voilà. Ensuite, il y a un régime qu'on appelle par capitalisation. Bon, il faut savoir qu'en France, ce régime-là est très minoritaire. Ça représente en volume 7% des retraites du privé qui sont une partie donc de ce système. C'est par capitalisation et c'est un système qui, même si c'est développé depuis 20 ans sous la pression des milieux libéraux, c'est le système, c'est le modèle que voudraient nous voir adopter l'ensemble des libéraux, même si ce n'est pas affirmé comme ça.
À l'heure actuelle, ce système par capitalisation, c'est ce qu'on appelle les retraites complémentaires.
c'est les plans, oui, les plans de retraite, les fonds de pension, il existe même dans la fonction publique, il y a pré-fonds retraite. Pré-fonds retraite, c'est des cotisations volontaires dans lesquelles vous cotisez. Alors, la capitalisation, c'est quoi le principe ? À la différence de la répartition, c'est que vos cotisations sont versées dans un fonds qui, ce fonds, va acheter des actifs. Il va acheter des actions, il va prendre des obligations, etc. Et quand vous partirez à la retraite, eh bien, les rendements qui auront du capital que vous avez déposé, vous sera rendu en rente. Alors, évidemment, on voit bien que ce système-là, on y verra sans doute en détail tout à l'heure, mais il est beaucoup moins robuste et beaucoup moins assuré que l'autre, puisqu'il varie suivant les aléas des crises boursières ou des crises financières. Voilà, pour le système. Alors, pour ce qui est ensuite des retraites proprement dit, on revient donc en répartition. Ce qu'on appelle les pensions représentent, pour quelqu'un qui a cotisé 40 ans, représentent à peu près aux alentours de 75% de son salaire, que ce soit aussi bien pour le privé que pour le public, même si les situations sont différentes, mais le résultat est à peu près le même, puisque les fonctionnaires qui ont cotisé depuis donc la dernière réforme, c'est-à-dire ceux qui sont nés en 1950, qui prennent leur retraite en 2010, auront dû cotiser 40 ans et 2 trimestres, eh bien, ils auront 75% du salaire des 6 derniers mois, mais brut, sans les primes, alors que pour le régime privé, ils passent ce qu'on appelle le régime général, ils ont 50% du salaire moyen des 25 meilleures années. 25 meilleures années, c'était la réforme Balladur. Auparavant, c'était les 10 meilleures années. On voit bien que c'est plus facile d'avoir des retraites un peu plus élevées avec 10 meilleures années que les 25 meilleures. Alors ça fait 50% du salaire moyen, à condition évidemment d'avoir travaillé 40 ans et 2 trimestres. Sinon, vous avez des décotes, c'est-à-dire on vous ponctionne cette pension. Et complétée par des retraites qu'on appelle complémentaires, alors des régimes ARCO pour les salariés et pour les cadres. En plus, ils ont la GIRC, c'est-à-dire des caisses de retraite dans lesquelles les cotisations sont comptabilisées en points. C'est plus du tout... C'est plus pareil. Et il y a un point, la valeur d'achat du point, après la valeur du point qui est versée en retraite. Enfin, jusqu'à présent, jusqu'au moment de Fillon, ça correspondait à peu près à un peu moins de 30%. Donc, ça se rajoutait à 50%. Donc, sauf qu'il faisait une pension qui avait à peu près 78%. C'était à peu près commun. Aujourd'hui, depuis les réformes, eh bien, il y a une baisse aussi bien dans le privé que dans le public. Et dans le privé, comme les attaques ont été antérieures, elles sont encore plus fortes. Voilà. Donc voilà un peu la situation.
Alors, je voudrais qu'on revienne un instant sur... On a parlé donc du coût des retraites. Je voudrais qu'on aborde un petit peu l'aspect des recettes. Donc cet argent qui est reversé aux retraités, pardon... Cet argent, il provient des cotisations. Alors, quelle cotisation, sur quelle assiette, comme on dit dans le jargon, repose le financement des retraites ?
Bien, le financement des retraites, je l'ai dit tout à l'heure en répartition, il reporte essentiellement sur les cotisations salariales, patronales ou salariales. De toute façon, c'est donc des cotisations. Et compte tenu que ça ne bouge pas depuis des années, aujourd'hui, l'offensive, le corps nous dit, voilà, il nous manque, même par rapport aux dernières réformes, il va manquer un financement. Un financement que le corps estime à peu près à 65 ou 70 millions, de 70 milliards d'euros à l'échéance 2050, ce qui fait quand même très très éloigné, et ce qui fait l'équivalent de 1,5 ou 1,6 points de PIB, ce qui est quand même relativement, puisqu'on l'a vu, ça fait 13% du PIB, donc ça veut dire ça fait à peu près une progression de 10%, mais lissée sur 40 ans, ce qui est vraiment, vraiment très peu.
Alors, Christian. Je précise, le corps, c'est le comité
d'orientation des retraites, c'est l'organisme censé être multipartidaire avec les représentants de tout le monde et qui donne un petit peu le projet de réforme.
Alors, j'abordais cette question des recettes parce qu'il y a quelque chose à dire, c'est que l'assiette, certes il y a eu une évolution et on parle d'un déficit, mais en fait la part du salaire sur laquelle est prélevée les cotisations de retraite diminuent de plus en plus, puisqu'en fait, il y a la part du salaire non imposable de ce point de vue-là est en train d'augmenter.
Oui.
Avec les intéressements aux bénéfices ne sont pas imposables,
voilà,
etc.
Donc, on verra cette question essentiellement avec Jean-Marie Arribé sur ces questions-là. Alors voilà, simplement, je voulais donner un petit peu le cadre, les enjeux. Donc il y a un déficit, bon là, on le voit, puisque la CNAV, c'est-à-dire la Caisse nationale d'assurance vieillesse, annonce pour 2010 un déficit de 10 milliards, on sait bien ce que c'est. Et dès que vous avez un déficit social ou un déficit public, eh bien vous avez tous les médias, tous les partisans du libéralisme qui poussent des cris d'orfraie et qui dénoncent la situation. Le déficit, il est toujours abyssal. Vous aurez remarqué, quand il s'agit de dette sociale, c'est abyssal. Quand il s'agit de dette privée, ben non, là, c'est plus abyssal. C'est au contraire, c'est une bonne chose. Alors, donc, il y a donc bien un déficit. Il est assez faible. Hein, il est assez faible. Et quand il y a un déficit, il y a toujours deux solutions, deux attitudes. Soit on augmente les recettes, soit on diminue les dépenses. Et il est évident que les libéraux, pour eux, comme c'est des dettes sociales, c'est quelque chose de négatif. Et il faut donc diminuer les dépenses. Et c'est l'obsession de ces gens-là. Alors, on va maintenant voir un petit peu avec Michel Husson l'analyse des critiques qui sont faites à ce système sur la viabilité du système face à cette offensive des libéraux.
En effet, merci Christian Garnier, merci pour la transition. En effet, après une petite pause musicale, nous aurons au téléphone Michel Husson, dont j'ai déjà dit qu'il était économiste, et qui nous éclairera justement sur la volonté des gouvernants actuels de réformer la retraite et quel est l'état d'esprit qui pousse à cela.
1, 2, 3, 4. Desire takes over, lays the color of voices. They depart and the world is taken by surprise. Half a world away, half a world away, and we are all blind. Rushes in, my mistake sounds like a dream. And we are all blind, us who like deny, wouldn't deny the light. All blind, us who like deny,
Bien, de retour sur le Petit Alter Radio, une émission d'Attaque Marseille sur Radio Grenouille. Aujourd'hui, nous parlons des retraites et justice sociale. Avec nous en ligne pour parler de tout ça, Michel Husson. Michel Husson, bonjour.
Bonjour.
Alors, Michel Husson, vous êtes économiste, vous avez travaillé sur la question des retraites et vous êtes membre du conseil scientifique d'Attaque. J'ai une première question à vous poser. Le gouvernement cherche à changer le système des retraites, mais sur quoi est-ce que cela repose? Pourquoi est-ce que le gouvernement juge qu'il est si important de changer ce système des retraites à l'heure actuelle?
Je crois que le tabou absolu à propos de cette question, c'est l'idée qu'on ne doit pas augmenter les taux de cotisation sur les retraites. Bon, et ça, c'est vraiment le pivot. Donc, à partir de ce moment-là, comme le nombre de retraités augmente plus rapidement que le nombre de salariés, il y a effectivement un déséquilibre, mais qui est normal, puisque on bloque absolument les recettes. Et donc, les réformes ne peuvent consister dans ce schéma qu'à adapter les dépenses à des recettes qu'on a décidé de bloquer en proportion de la masse salariale pour aller vite. Bon. Et le deuxième aspect, peut-être, c'est un choix politique qui a été fait dans la foulée de toutes les réformes depuis Balladur 93 et jusqu'en Fillon 2003. Fillon a institué l'idée d'une réforme glissante, puisque tous les 5 ans, il y a un rendez-vous qui adapte petit à petit le système à ces recettes qu'on a choisi de bloquer a priori. Et donc, on est dans un processus de réforme permanente qui a un effet désastreux, qui est de créer une incertitude totale des générations les plus éloignées de la retraite, disons, sur l'avenir du système et qui tend justement à le délégitimer, à le décrédibiliser et en somme à prouver par A plus B quand ce système n'est pas viable, puisqu'il faut le réformer tous les 3-4 ans. Mais encore une fois, je pense que le socle absolu, c'est le refus, qui est vraiment quelque chose qui est effectivement évidemment défendu absolument par le MEDEF, mais repris par le gouvernement, c'est un des paramètres possibles d'ajustement, à savoir l'augmentation des ressources et donc des taux de cotisation dans l'agencement actuel, est absolument refusé.
Mais alors, quelle est la marge dans ce domaine-là? Je veux dire, comment est-ce qu'il serait possible de s'y prendre pour augmenter les recettes? On ne peut pas augmenter le nombre de cotisants, alors comment est-ce qu'on devrait s'y prendre?
Dans les propositions, la manière, jusqu'à présent, le système, jusqu'à Balladur, disons, c'est-à-dire depuis la libération et la mise en place du système de répartition, sa logique de fonctionnement, c'est la suivante. C'est on calcule, je simplifie un peu, mais on calcule les dépenses, c'est-à-dire on a des règles d'attribution des pensions, il y a un nombre de retraités, etc. La retraite a plutôt, dans cette période, dans les années 50, 60, 70, enfin, a plutôt augmenté, a été revalorisée. Il y avait au départ beaucoup de pauvreté parmi les retraités. Et alors, on calcule donc les dépenses nécessaires, et on fait le calcul à l'envers en calculant le taux de cotisation qui est nécessaire pour couvrir ces dépenses. Et donc, pendant toute cette période, les taux de cotisation, la part des retraites dans le revenu national, a augmenté de manière régulière et assez importante, et plus importante que ce que on nous annonce à l'horizon 2050. Bon. À partir d'un moment, il y a eu le tournant néolibéral et on a décrété que cette augmentation était insupportable. Donc on a renversé, encore une fois, la logique du système, qui est de dire on fixe on fixe les recettes et on ajuste sur les dépenses. Donc on inverse la logique du système. Si on accepte vraiment la logique du système, l'équilibre doit se trouver par l'augmentation des taux de cotisation. Alors la question qui vient ensuite, bon, mais qui est vraiment un point important, un clou important à enfoncer, c'est de déconstruire, enfin critiquer les arguments qui disent que c'est impossible. Or, quand on regarde, alors là, il faut rentrer dans les chiffres, dans les projections, etc. Mais comme l'a dit un intervenant précédent, c'est étalé sur 40 ans, puisque l'horizon actuel, c'est 2050. Et donc, c'est un glissement progressif, si vous voulez, un déplacement régulier, qui est possible à l'intérieur même de la masse salariale, et qui est d'autant plus possible si on fait baisser la part des dividendes qui a extraordinairement augmenté autour des au cours des 15 ou 20 dernières années. Ça c'est la logique du système. Ensuite, c'est en débat. Enfin, il y a une autre logique qui est, on y a fait allusion aussi précédemment, d'élargir l'assiette sur lesquelles sont calculées les cotisations. Actuellement, c'est la masse salariale, et de dire faisons cotiser les dividendes. En gros, faisons cotiser les profits et plus spécialement les profits qui ne sont pas investis. Et donc, c'est une autre possibilité. Et donc, quel que soit le dosage entre ces deux possibilités, les projections qu'on peut faire, y compris en utilisant les chiffres du corps, montrent que c'est que ça passe, quoi, et que c'est un déplacement relativement marginal, et que tout vient, en fait, encore une fois, du fait qu'on ne peut pas envisager dans le débat public ce déplacement, parce qu'on a décrété que les taux de cotisation, donc les ressources, ne devait pas augmenter plus vite que le revenu national. Mais si vous y réfléchissez, le nombre de retraités va augmenter plus vite que le nombre de cotisants. Bon, donc ça suppose, si on ne veut pas dégrader leur situation relative, quand ils vont sur leur retraite, il faut à ce moment trouver un déplacement simultané dans la répartition des revenus. C'est-à-dire que s'il y a plus de retraités dans une société, il faut que ces sociétés consacrent une partie plus grande des revenus de national à cette partie de la population. Or, l'idée de dire on n'augmente pas les ressources plus vite que le revenu national consiste à dire on refuse, et c'est une espèce de choix de société, on refuse d'ajuster la répartition du revenu à la répartition de la population qui est en train de changer.
Mais Michel, est-ce que justement cette question-là, ce refus d'augmenter cette contribution, en même temps, c'est derrière, il n'y a pas une vision idéologique? Est-ce que ce n'est pas plutôt, parce que in fine, les gens vont, on va leur proposer d'augmenter. Mais comment? En passant par d'autres biais, c'est-à-dire on leur dira de complémenter. Donc en fait derrière cette, parce que ce qu'on n'a pas dit, mais ce qui est évident pour en tout cas les retraités, c'est que les conséquences des mesures qui ont été prises tant par Balladur que par Fillon aboutissent à des reculs des pensions. Donc de fait, il y a des propositions, les mêmes qui dénoncent l'endettement social, disons, quand il y a les cotisations, ne trouvent rien à redire à ce que ces mêmes salariés cotisent dans des fonds de pension. Donc, ils trouvent que on ne peut pas cotiser sous forme de salaire, mais par contre, on pourrait cotiser dans les fonds de pension. Ne crois-tu pas que, en fait, c'est quelque chose d'un peu déjà prémédité de faire baisser les pensions pour faire rediriger une partie des gens vers les fonds par capitalisation?
Oui, tout à fait. C'est ce qu'on a appelé à un moment la cannibalisation. C'est-à-dire on laisse mourir, pourrir sur place le régime par répartition. Et donc, effectivement, il y a des succès d'années, des équivalences. Alors, la question, et alors en plus, je pense qu'il y a un dispositif général dont on a déjà un petit peu parlé, qui est toutes les formes de rémunération, disons non salariales, comme la participation d'investissement, qui ne cotisent pas ou beaucoup moins que les salaires, et qu'on va favoriser. Et donc on accentue les pertes de ressources pour le système, puisqu'il est fondé sur les vrais salaires, entre guillemets. Mais en même temps, ces produits-là sont des produits qu'on peut plus ou moins assigner à des fonds de pension, en tout cas des plans de retraite. Donc il y a une espèce de boucle infernale. Mais alors ce que ça révèle, c'est pas seulement idéologique, c'est que la répartition, c'est une espèce de manque à gagner pour le capital. C'est quelque chose où on ne fait pas de profit. En revanche, dès qu'on fait de la capitalisation, c'est-à-dire on place l'argent, là, il y a des possibilités de profit, et là, ça devient intéressant, et là, il n'y a plus aucune limite aux dépenses liées à la retraite, parce qu'elles deviennent rentables. Et donc, il y a vraiment deux conceptions de la société, c'est-à-dire, d'une part, la répartition qui, comme son nom l'indique, fait circuler l'argent, mais sans que personne gagne dessus, et la capitalisation qui place l'argent, mais où on peut faire des bénéfices. Et c'est d'ailleurs une des leçons des comparaisons entre les systèmes, c'est que les systèmes par capitalisation sont très coûteux parce que il y a toutes les sociétés qui gèrent ces fonds, les assurances privées, etc., qui au passage ponctionnent beaucoup plus que l'administration nécessaire au fonctionnement d'un régime par répartition. Mais c'est peut-être pas le point, c'est déjà un point important, mais il y a un point encore plus important, c'est que tout le monde n'a pas la possibilité de substituer, disons, de compléter le régime par répartition par de l'épargne individuelle en vue de la retraite. Et c'est un vecteur d'inégalité fondamental. C'est-à-dire qu'on institue en fait un régime à deux vitesses. Ceux qui ne bénéficieront du seul régime par répartition, donc avec une perte relative progressive, et puis ceux qui ont les moyens effectivement de consacrer une partie qui épargne, et donc qui ont les moyens de consacrer une partie de leur épargne à préparer leur retraite. Et là encore, les comparaisons internationales montrent que dans les systèmes, disons, où les fonds de pension sont majoritaires, on crée des inégalités tout à fait considérables. Donc c'est vraiment un basculement progressif à mesure que les réformes s'avancent. C'est le basculement en une logique solidaire, égalitaire, c'est-à-dire qui corrige peu, mais qui prend en compte le système tel qu'il est, mais ne va pas le modifier, et un système complètement inégalitaire, où on va rajouter une couche d'inégalité au moment de la retraite.
Oui, Michel Husson, vous évoquez l'idée de solidarité. En effet, c'est fondamentalement ce qu'il y a derrière le système par répartition, que l'on prenne de l'argent aux personnes qui payent les salaires pour les reverser directement aux retraités, de manière à ce qu'on considère les personnes retraitées comme des personnes qui continuent à goûter les fruits du travail qui se fait à l'heure actuelle. Et c'est fondamental comme conception de la société. À l'heure actuelle, les gens qui travaillent produisent de la richesse pour les retraités. Et c'est ce qui serait remis en question par un système par capitalisation qui est bien plus, disons, pour caricaturer, individualiste.
Absolument. En caricaturant, on pourrait imaginer une société qui pousse jusqu'au bout cette logique-là. C'est-à-dire que il y a les salariés qui gagnent uniquement ce qu'ils gagnent sur leur travail, et puis ils partent à la retraite. Comme ils ne servent plus à rien, eh ben on se débrouille. Je caricature, hein, mais on va vers cette idée-là, c'est-à-dire à partir du moment où ils ne travaillent plus, leurs revenus doivent baisser de plus en plus à chaque réforme, etc. Et en revanche, ceux qui ont un patrimoine ont la possibilité de continuer à en profiter au moment de la retraite. Donc il y a effectivement deux conceptions. Mais en plus, là derrière, si vous voulez, il y a un aspect, je dirais, lutte de classe entre le capital et le travail. C'est-à-dire que la retraite, d'une certaine manière, ce qu'on a imposé aux employeurs, c'est de dire, vous devez payer vos salariés pendant qu'ils travaillent pour vous, mais vous devez aussi les payer une fois qu'ils ne travailleront plus, ni pour vous, ni pour personne, enfin sous forme de travail salarié en tout cas. C'est occulté, si vous voulez, par le fait qu'à un moment, pendant que le salarié est actif, le patron paye des cotisations proportionnelles à son salaire, parce qu'en fin de compte, c'est le patron qui les paye, hein, sur la fiche de paye, ce qu'on reçoit comme salarié, c'est net de les cotisations ont été transmises par l'employeur aux caisses de retraite. Bon, et puis à la retraite, mais ce qui est caché, c'est que le fait, il y a une partie qui va directement au salarié, c'est le salaire direct, et l'autre partie qui va aux caisses de retraite, c'est la paye, mais qui est socialisée, si vous voulez, qui est mutualisée entre tous les employeurs, la paye des salariés qui ne travaillent plus pour aucun employeur. Et si vous voulez, d'une certaine manière, ça ressemble en fait au système des fonctionnaires. C'est-à-dire que dans le statut du fonctionnaire, quand l'État engage un fonctionnaire, qui acquiert le statut de fonctionnaire, l'idée c'est que l'État s'engage à le payer pendant qu'il travaille en tant que fonctionnaire, pendant sa vie active, et qu'il le paye aussi pendant la retraite. Ouais. Donc il y a essai de continuité.
Et puis il est payé toute sa vie, quoi.
Toute sa vie. Et cette règle du jeu qu'on a imposée au patronat, à la libération, la mise en place de ce qu'on peut appeler l'État social, l'idée c'est qu'il veut s'en défaire ou réduire au maximum le poids de cette obligation.
Ouais, d'où la logique de travailler de plus en plus tard. Pratiquement, il faudrait s'arrêter et mourir, quoi. Je veux dire, quand on arrête de travailler, dès qu'on est plus productif, on n'a plus rien à faire dans la société, quoi.
Oui, avec cette contradiction que quand on a 55 ans, les patrons ne veulent plus vous embaucher.
Voilà, oui, Michel.
Bon, mais Michel Husson, merci beaucoup de votre intervention. Merci beaucoup. Nous allons passer maintenant à une troisième partie de l'émission avec une intervention de Jean-Marie Haribé, où nous parlerons plus des propositions avancées pour réformer le système, certes, mais pas n'importe comment. De retour sur le Petit Alter Radio, une émission d'attaque sur les ondes de Radio Grenouille. Aujourd'hui, nous parlons de retraite et justice sociale. Avec nous en ligne, Jean-Marie Haribé, économiste et membre du conseil scientifique d'attaque, lui aussi, avec qui nous allons aborder d'autres questions au sujet de la retraite. Monsieur Haribé, bonjour.
Bonjour.
Nous avons abordé avec Michel Husson les aspects entre guillemets idéologiques du débat sur la retraite. Alors, je voudrais parler avec vous dans un premier temps d'alternatives, de changements, changer le système. Est-ce que, par exemple, on entend dire qu'on devrait, puisqu'on vit plus longtemps, on devrait cotiser plus longtemps. Est-ce que cette idée, qu'est-ce qu'elle vaut pour vous ?
Rien.
Ah, très bien. Alors, mais pourquoi donc ?
Mais encore.
Voilà. Non, mais c'est vrai qu'on entend depuis des années, et avec une force renouvelée ces derniers temps, le discours consistant à nous dire qu'il n'y a qu'un paramètre que l'on peut faire varier pour financer les futures retraites, c'est d'allonger la durée de cotisation. Ou bien une variante de cette proposition d'abolir ou de reculer fortement l'âge légal de départ à la retraite. Donc ignorer, si on entend le discours dominant, des gouvernements, du patronat et des économistes du côté du Manche, c'est-à-dire bien pensants, fidèles à l'idéologie libérale, ignorer que ce paramètre que l'on pourrait faire varier. Or, il faut savoir, et ça, je crois que tout citoyen est capable de comprendre une chose aussi simple que celle-ci, à tout moment, pour équilibrer un système de retraite, quel qu'il soit, il faut que le montant des pensions soit égal au montant des prélèvements sociaux, c'est-à-dire des cotisations sociales dans notre système, pour qu'il n'y ait pas de déficit, ou d'excédent d'ailleurs. Et pour pouvoir parvenir à cette égalité en permanence, eh bien, il y a plusieurs moyens. Parce que votre montant des pensions totales, qui est égal à la pension moyenne que multiplie le nombre de retraités, doit donc être égal au salaire moyen que multiplie le taux de cotisation et que multiplie le nombre de cotisants. Donc c'est ça l'équation toute simple. Eh bien, tous ces paramètres qui composent cette égalité toute simple, tous ces paramètres peuvent varier, et pas simplement l'un d'entre eux. Et donc, on nous explique qu'on ne pourrait faire varier que la durée de cotisation, c'est-à-dire, par ce fait-là, augmenter le nombre de cotisants par rapport au nombre de retraités. Donc il n'y aurait que ce seul paramètre qui pourrait bouger, alors qu'on fait un silence radio sur le taux de cotisation, en espérant que la variation du nombre de cotisants par rapport au nombre de retraités fasse en sorte que la pension moyenne diminue. Parce que si vous allongez la durée de cotisation obligatoire, alors que les gens ne peuvent pas y parvenir pour de multiples raisons, eh bien, vous allez diminuer automatiquement le niveau des pensions. Et donc, le tour de passe-passe est joué, et on a rééquilibré le financement des retraites en jouant par le biais de la durée de cotisation, en jouant sur la baisse des pensions. Et c'est un tour de passe-passe magistral.
Alors, quel paramètre, alors, devons-nous faire varier si...
Celui sur lequel le silence complet est fait, à savoir le montant des cotisations, en faisant varier le taux de cotisation. Alors, pour cela, il y a plusieurs manières. Vous pouvez augmenter le taux de cotisation sur l'assiette actuelle, c'est-à-dire sur, qui est grosso modo, la masse salariale. Mais, ce faisant, vous laissez de côté une bonne partie des revenus qui sont distribués et qui ne sont pas soumis à cotisation de côté. Vous les laissez de côté alors qu'ils occupent une part non négligeable et même une part croissante dans la richesse totale, puisque notamment les revenus distribués aux actionnaires, les dividendes, ont considérablement augmenté au cours des 25 dernières années.
Ouais,
et le silence complet est fait sur cette question-là, et c'est sur cette question-là qu'au contraire nous voulons mettre le phare, mettre l'accent, parce que il faut faire sauter le tabou selon lequel la répartition des revenus entre salaire et profit ne pourrait jamais plus bouger.
Oui, c'est-à-dire que toute cette baisse que l'on voit depuis quelques années sur la part qui est liée aux revenus issus des salaires, comme elle a été transférée vers des revenus du capital, de ce fait, elle est perdue, quoi. Elle part en perte et profit, quoi. Il faudrait réinverser ce système.
Alors, il faudrait effectivement inverser la tendance qui est à l'œuvre depuis le début des années 80 dans notre pays, mais c'est un peu la même période pour les autres pays voisins. Il faudrait inverser cette tendance qui a consisté à décrocher l'évolution des salaires de l'évolution de la richesse produite, c'est-à-dire de la productivité du travail. Et comme les cotisations sont assises sur le salaire, justement, ben fatalement, les cotisations ne peuvent pas suivre l'augmentation des besoins de la collectivité, notamment les besoins de financement des retraites, puisque le nombre de personnes en âge de la retraite va en augmentant. Et donc, la proposition que nous faisons, c'est de réintroduire dans l'assiette des cotisations tous ces revenus qui ne sont pas pour l'instant soumis à cotisation. Oui. Et les dividendes sont concernés au premier chef, puisque si l'on regarde à quelle hauteur ils se situaient au début des années 80, bon, ils représentaient à peine un peu plus de 3% du PIB, et aujourd'hui, ils représentent 8,5% de ce même PIB. Donc, un bond de 5,5 points du PIB, c'est-à-dire qui correspond quasiment exactement aux besoins de financement supplémentaires des retraites d'ici l'horizon 2050, si l'on veut d'abord abolir les contre-réformes qui ont été menées en 1993 et en 2003, et ensuite accompagner le vieillissement de la population, c'est-à-dire la proportion toujours plus grande de personnes en âge de faire valoir leur droit à la retraite.
Jean-Marie, cette question, justement, elle est très importante, parce que quand on propose l'augmentation des cotisations, on entend le cœur des pleureuses du MEDEF expliquer « mais il ne faut pas augmenter le coût du travail, puisqu'on leur parle de charges, etc. » Donc, la réponse qui est faite, c'est-à-dire de taxer les dividendes, c'est plutôt... Bon, ça n'aurait rien à voir avec l'augmentation du coût du travail comme réponse. On peut considérer ça comme ça?
C'est exactement ça. Nous ne proposons pas d'augmenter le coût du travail, mais de diminuer le coût du capital. Le coût que le capital fait peser sur l'ensemble de la société, et en premier lieu, bien sûr, aux salariés et aux retraités. Donc, n'augmentons pas le coût global des besoins qui sont à prendre en charge demain, mais diminuons le coût que fait peser le capital. Et ce coût est exorbitant, puisque on sait aujourd'hui, tout le monde le reconnaît, même le patronat le reconnaît, que depuis plus de 20 ans maintenant, 25 ans maintenant, l'exagération de l'exigence de rentabilité qu'on a constaté sur tous les marchés financiers qui poussaient les taux de rendement exigés jusqu'à 15% par an, voire 18% par an, qui n'a rien à voir avec la capacité du système productif à produire un rendement aussi élevé. Hein, la croissance économique est à peine de 2,5% en moyenne par an depuis un quart de siècle. Pendant ce temps, sur les marchés financiers, les détenteurs de capitaux exigeaient des rendements de 5 ou 6 fois plus élevés que ce qui est rendu par le système productif. Donc, c'est le coût que fait peser le capital sur la collectivité qui est devenu outrageusement élevé et qu'il faut donc réduire par tous les moyens. Alors, le moyen pour ce qui concerne la question des retraites, le plus simple, c'est effectivement de faire cotiser tous les revenus distribués aux détenteurs du capital, en premier lieu les dividendes, les faire cotiser pour financer tous les besoins sociaux, dont la protection sociale et parmi elles les retraites.
Concrètement, ATTAC a fait des propositions sur ce sujet. Je pense qu'elle matérialise ce que tu viens d'expliquer. Tu peux nous les détailler plus précisément ?
Eh bien, il y a d'abord un refus catégorique des propositions qui se dessinent du côté gouvernemental et patronal. C'est-à-dire que nous refusons que le mot d'ordre, finalement, de travailler plus. Travailler plus parce qu'on vivrait davantage est une proposition qui n'a pas de raison d'être à partir du moment où on pose l'hypothèse que l'on peut utiliser les gains de productivité pour autre chose que travailler toujours plus, mais au contraire pour alléger la peine des hommes, la peine des humains dans l'acte productif en diminuant le temps de travail. Et c'est d'ailleurs la tendance séculaire qu'a même fini par accepter et intégrer dans sa dynamique le capitalisme. Hein. Le capitalisme est passé de l'obligation de travailler 16 heures par jour à 8 heures par jour, puis un petit peu moins. Il a fini par accepter l'idée qu'on avait droit à des congés payés chaque année. Il a fini par accepter l'idée qu'on avait droit à une retraite. Donc, ça veut dire que... Et comment cela a été possible? Comment le capitalisme a pu accepter ce qu'il jugeait intolérable à ses débuts? Bien parce que les gains de productivité sont tels et ont été tels dans l'histoire qu'on a pu à la fois augmenter le niveau de vie et diminuer la durée du travail. Bon, et il n'y a pas de raison que cette évolution connaisse un arrêt, et pire, une inversion de tendance radicalement opposée. Alors, cela dit, ça ne signifie pas que nous faisons le pari que les gains de productivité futurs seront aussi élevés que ce qu'ils ont été dans le passé. Non, nous ne faisons pas ce pari-là parce que nous savons qu'en plus de l'héritage social désastreux que va nous laisser le capitalisme, il nous laisse en même temps un héritage écologique aussi désastreux. Et donc, il nous faut intégrer cette préoccupation pour ne pas faire un pari démesuré sur la croissance économique future, mais il n'y a pas de raison de penser que si la production s'améliore en qualité d'ici 40 ans, ce pour quoi il faut se battre, il n'y a pas de raison de penser que la valeur de cette production diminuerait en 2050 par rapport à ce qu'elle est en 2010. Donc, il n'y a pas de raison de supposer que nous tablerions sur un PIB qui ne bougerait pas pendant 40 ans, même si nous ne faisons pas de pari sur une croissance productiviste. Et donc, il faut affecter tous ces gains de productivité futurs réaliser sur une production de meilleure qualité, évidemment. Il faut affecter ces gains de productivité, non à la rentabilité servie aux actionnaires, mais à la satisfaction des besoins sociaux. Et ouais. Au premier rang desquels, il y a toutes les dépenses sociales d'assurance maladie, de retraite, sans oublier les dépenses d'éducation, de formation qu'il faudra consacrer à la jeunesse et même à l'ensemble des salariés tout au long de leur vie active.
Ouais, c'est vraiment une dimension politique qui doit être insufflé et partagé par tout le monde, quoi, du haut jusqu'en bas, parce que je veux dire, c'est ce que tu viens de dire, c'est vraiment une modification du vivre ensemble qui se joue là.
Et c'est parfaitement exact. C'est pour ça que la question des retraites pose un enjeu de des enjeux de société à de multiples raisons. Donc, pour le dire vite, la question des retraites dépasse la question des retraites. Donc, hein, c'est qu'on a là un point où se focalise un certain nombre de choix de société cruciaux pour l'avenir. Un choix en termes de solidarité, un choix en termes de finalité de l'acte productif et du travail humain finalement, et un enjeu également d'ordre écologique puisqu'il s'agit de prendre en compte et de promouvoir une production qui serait de plus en plus propre, économiseuse de matières premières, de ressources naturelles, non polluantes, etc., etc. Et pour cela, nous devons remettre en cause la logique même de l'accumulation du capital qui conduit au désastre social d'un côté et au désastre écologique de l'autre. Et c'est pas un hasard s'y attaque, avec d'autres bien sûr, notamment au sein des forums sociaux. Depuis plusieurs années, nous avons mis en évidence l'absolue nécessité d'articuler la préoccupation d'ordre social et la préoccupation d'ordre écologique.
Christian Garnier, une dernière question ?
Oui, alors là, dans cette affaire aussi, puisque ça c'est proprement attaque sur comment désarmer aussi les marchés financiers, je pense que cette question, même si elle a été légèrement abordée en première partie, mais c'est-à-dire, c'est que, c'est en somme, vive les retraités, abat pour l'euthanasie des rentiers, parce que derrière, c'est qu'on transfère, derrière les projets de réforme des retraites, c'est qu'ils veulent récupérer cet argent qui est donné comme ça, ce financement par flux des retraites qui sort de la logique du capital pour l'insérer de nouveau dans les marchés financiers. Parce que si cette masse de 250 milliards d'euros sont transformés en retraites par capitalisation, eh bien ça va encore renforcer l'instabilité des marchés et des crises. Donc, du ce point de vue même de l'évolution de la société, ces projets de réforme sont tout à fait nocifs.
C'est tout à fait exact. Ces réformes des systèmes d'assurance maladie et de retraite n'arrivent pas maintenant par hasard. Nous sommes dans une période où le capitalisme a tout fait pour financiariser le système, et le drainage de l'épargne vers les compagnies d'assurance, vers les fonds de pension, et donc finalement vers le système financier, ce drainage de l'épargne fait partie de la stratégie des classes dominantes pour effectivement pouvoir disposer de masses financières les plus importantes possibles, de façon à être toujours à la pointe du combat capitaliste de la conquête du marché sur les concurrents, la prise de participation dans les sociétés voisines, donc d'être à la pointe de la restructuration permanente des groupes financiers et industriels. Et donc pour cela, il faut des fonds de plus en plus importants. Oui. Il faut des fonds de plus en plus importants qui sont épaulés par le recours au crédit bancaire, et on l'a vu dans la dernière période, et ce recours au crédit bancaire avec la bénédiction des banques centrales a considérablement déstabiliser le système, puisque l'essentiel de la création monétaire, que ce soit par le biais de la Banque Centrale Européenne pour l'Union Européenne, ou que ce soit par le biais de la Banque Centrale des États-Unis ou des autres grandes banques centrales du monde, l'essentiel de la création monétaire est allé au financement des opérations purement financières, et donc et dont la majorité est à vocation spéculative. Et donc, finalement, le drainage de cette épargne et la remise en cause des systèmes de protection sociale collective sont cohérents avec cette financiarisation.
Voilà.
Oui, est-ce qu'on peut dire qu'on est dans une troisième phase, c'est-à-dire qu'on a eu ce changement dans les années 80 où c'est sur le travail que l'on a qu'on a ponctionné, qu'on est passé du travail à une augmentation des ressources, et ça se transférerait sur les bénéfices. Et là maintenant, cette ponction, elle se fait sur l'argent qui va vers les retraités. Je veux dire, on continue dans cette logique de dissocier complètement du monde réel et productif. Quoi.
Oui et non. Il y a la dissociation qui est indéniable, c'est la dissociation entre l'évolution de la richesse totale et celle qui est affectée au versement des salaires et aux revenus de transfert que sont les retraites, par exemple. Donc là, il y a une dissociation. La richesse totale augmente plus vite que ce qui est attribué aux salariés, aux anciens salariés que sont les retraités. C'est là la dissociation. Il n'y a pas de capacité du système, dans son ensemble, il n'y a pas de capacité du capitalisme à se passer du travail productif. Le capitalisme n'a pas cette capacité de valoriser le capital en dehors de ce qui se passe dans la sphère productive. Et lorsqu'il croit pouvoir s'en passer, eh bien se développent toutes les illusions, tous les mirages consistant à croire que ce qui se passe à la bourse, sur les marchés financiers de manière générale, est créateur de richesses. Pas du tout. L'envolée des cours boursiers tous les matins, pendant 6 mois, 1 an ou 10 ans, ne signifie pas qu'il se crée de la richesse lorsque la bulle monte, mais ça signale simplement qu'il y a une distorsion de plus en plus grande du partage de la vraie richesse, de la richesse réelle, celle qui est produite dans les entreprises, et que la distribution de dividendes augmentant, ça se sait en bourse, donc il y a un pari sur le fait que cette situation perdurera, et pourquoi pas éternellement, et donc la bulle monte. Mais la bulle ne peut pas monter jusqu'au ciel, et elle finit toujours par éclater. Le propre d'une bulle, c'est d'éclater. Et tôt ou tard, c'est d'éclater. Et elle éclate toujours lorsque le hiatus dont je viens de parler est arrivé à son paroxysme, à son maximum. Et donc, il y a une sorte de force de rappel qui ramène la finance sur Terre, parce que la finance ne peut pas vivre hors sol éternellement. Et c'est ce qui s'est passé pendant la décennie 2000, où on a vu donc une montée de la bulle, d'abord sur Internet, ce qu'on appelle la bulle Internet, puis sur l'immobilier, puis sur certaines autres matières premières. Toutes ces bulles ont fini par éclater.
Et ce serait bien dommage de rajouter les retraites dans ces sphères de bulles.
Et donc pour nourrir cette abondance de liquidités pouvant participer à ce casino sur les marchés financiers, pour nourrir donc en liquidité ce casino, eh bien le drainage de l'épargne, que ce soit celle qui est canalisée jusqu'ici dans les systèmes d'assurance maladie, ou celle qui est canalisée jusqu'ici dans les systèmes d'assurance de retraite collective, cette épargne-là, eh bien il faut la canaliser vers d'autres circuits qui sont ceux des marchés financiers. D'ailleurs, je devrais le dire autrement, parce que les cotisations sociales ne sont pas une épargne. Elles sont immédiatement reversées sous forme de prestations, c'est-à-dire de retraite ou de soins aux malades. Et on veut nous faire croire effectivement qu'il s'agit d'une épargne comme une autre que nous passons sur les marchés financiers, mais c'est une erreur. Effectivement, les retraites ne sont pas une épargne que je mets de côté, mes cotisations ne sont pas une épargne que je mets de côté et que je retrouverai plus tard. Nos cotisations servent à payer les retraites dans l'instant à ceux qui ont l'âge de faire valoir ce droit. Et c'est la C'est le génie d'ailleurs de notre système que l'on appelle par répartition, d'avoir conçu ce mécanisme de redistribution dans l'instant, sans passer par la case spéculation, de redistribution dans l'instant d'une partie de la valeur ajoutée, comme on dit, auprès de ceux qui en ont besoin, à savoir ici, pour notre débat, les retraités.
Jean-Marie Rubé, merci beaucoup, le temps tourne, malheureusement il nous faut nous quitter.
Je vous remercie.
C'est nous.
Et merci beaucoup.
Au revoir et au revoir. À bientôt à Marseille, en tout cas.
Puisque à bientôt, le 28.
Le 28, oui.
Nous et oui. En effet, alors, donc l'émission se termine. Christian, quelques annonces, on vient d'entendre le 28 avril.
Oui, donc le 28 avril, nous aurons le plaisir de recevoir Jean-Marie Arribé à 18h30 au CRDP, à la Boulevard d'Athènes, qui pourra nous détailler un petit peu tout ce qu'il vient de nous dire avec un peu plus de temps et de pouvoir. Il y a Attac qui va sortir un livre aussi sur les retraites dans les prochaines semaines. Vous pouvez vous le procurer. Attac fait son cinéma, projette le film La fin de la pauvreté, qui sera le 14 avril au Pont Bascule à la rue Breteuil.
Oui. Nous avons fait cette émission, c'est pas simplement que de l'information. Attac est aussi une association d'action, et pas que d'éducation populaire. Mais nous engageons toutes les forces de l'association dans le combat pour s'opposer à ces attaques libérales contre ce système de retraite qui, nous l'avons vu à travers cette émission, est résolument solidaire et résolument moderne. Alors il faut signaler aussi que Attac a lancé avec Copernic un appel national qui a été signé par 400 personnalités à l'échelle nationale. Et l'idée, c'est de lancer une grande campagne avec des collectifs locaux pour engager un mouvement de résistance. Et à Marseille, il y aura une réunion qui est prévue le 22 avril pour mettre en place toute la structuration de la mobilisation pour faire reculer ces mesures, ces contre-réformes gouvernementales. Voilà ce que je tenais à dire. Donc il y a un appel qui s'appelle « Faire entendre les exigences citoyennes sur les retraites » qui va circuler. On va sans doute le faire signer ensuite aux citoyens. Nous appelons donc les auditeurs de Radio Grenouille à justement se tenir au courant des évolutions de cette campagne. Nous aurons 3 mois, 4 mois avant les échéances parlementaires pour pouvoir arriver à développer ces arguments et une mobilisation pour montrer que la solution, eh bien, elle est dans l'approfondissement au contraire de la socialisation, de la solidarité face à la crise que nous connaissons aujourd'hui.
Merci Christian.
Vous retrouvez tous ces textes sur le site d'Attac France.
Le site internet, oui, du Attac France, où l'on peut retrouver des documents pour creuser le sujet du jour, le sujet qui était les retraites. Et vous pouvez aussi réécouter sur internet l'émission d'aujourd'hui. Et nous vous donnons rendez-vous dans un mois pour une nouvelle émission du Petit Alter Radio sur les ondes de Radio Grenouille.
Au revoir.